en état d'urgence climatique.
Plus chaud que le climat.
Il faut que nous entrions en désobéissance civile.
Animé par Alternative à Nantes
et le GIGNV.
Il faut que nous menions des actions non violentes, déterminées.
Résistance et alternative au changement climatique à deux pas de chez vous.
Nous allons continuer ce travail pour construire une autre société. Tout cela est à notre portée.
Bonjour, bienvenue dans la nouvelle chronique Plus chaud que le climat d'Alternative à Nantes et du GIGNV. Ce mois-ci, on vous parle d'aviation et de climat, les deux n'étant pas très compatibles. N'est-ce pas, Luc, à la tour de contrôle ?
Oui, n'est-ce pas ? Bonjour.
Dans le cockpit, comme pilote, on a...
Sophie.
Comme copilote, on a...
Anto.
Et donc moi, c'est Fred, qui serait votre steward. Donc, l'aviation n'est. L'aviation aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Malheureusement, on se rend compte que difficile de concilier le plaisir du voyage en avion avec le dérèglement climatique, n'est-ce pas, Sophie ?
En effet, et pour commencer, il faut se représenter ce que ça représente sur ce marché économique. L'aviation, c'est 10% du produit intérieur brut mondial, avec une croissance de 5% par an. Donc le secteur de l'aviation, c'est un vrai moteur économique. D'abord parce qu'il facilite l'import-export et par conséquent, il favorise la mondialisation.
On voit mal le secteur économique s'en priver du coup.
Ah ben attention, le PIB ne dit pas qui profite de cette richesse et qui en est exclu. L'avion reste un privilège à l'échelle mondiale pour seulement 10% de la population qui s'est déjà envolée. Et il ne faut pas oublier que le coût écologique qui résulte de ces trajets aériens, ce qu'on appelle les externalités négatives, il n'est pas pris en compte. Or, il a aussi des répercussions sur l'argent public, celui de nos impôts.
On est en pleine injustice entre d'un côté les rares privilégiés qui peuvent profiter de l'avion contre la grande majorité qui en subit les conséquences écologiques et financières.
Exactement. En fait, 3 à 6% des gaz à effet de serre sont dus à l'aviation. Un aller-retour Paris-New York émet une tonne de CO2, soit l'équivalent de ce que consomme un être humain en un an. En gros, pour comparativement, il faudrait, pour un être humain, manger pas plus de 20 kilos de sucre par an. Et là, c'est comme si on avalait 25 kilos d'un coup à la petite cuillère.
Oui, alors c'est considérable, mais on entend souvent dire que ce sont surtout les USA qui devraient faire des efforts, parce qu'il y a beaucoup de vols intérieurs. Mais comparativement, la France est un petit pays, alors doit-elle diminuer elle aussi ses vols ?
Oui, rappelons quand même que la France a l'espace aérien le plus grand d'Europe. Tu veux des chiffres ? Cette activité lui rapporte 60 milliards d'euros par an, soit 4% de son PIB. Et cela représente 320 000 emplois directs.
Et alors, qui prend l'avion aujourd'hui ?
À peu près tout le monde, mais on sait que le milieu socio-économique joue fortement. Selon une étude, 50% des cadres sup ont déjà pris l'avion, contre seulement 20% des ouvriers. De même, 50% des citadins parisiens auraient pris l'avion, contre seulement 20% des ruraux. Donc oui, l'usage s'est développé dans toutes les classes sociales, mais inégalement. Le low cost, par exemple, n'est utilisé que par les classes moyennes, pour leurs loisirs, et par les entreprises.
Alors, est-ce qu'il ne suffirait pas simplement d'augmenter la fiscalité pour réduire les vols et donc les émissions de gaz à effet de serre ?
On y pense. Mais le consensus mondial autour des enjeux politiques et économiques a pris du retard. Le secteur de l'aviation est resté un privilégié fiscal qui, premièrement, échappe aux taxes, carburant non taxé, absence de TVA sur les billets de vols internationaux et TVA très réduite sur les vols intérieurs. Et deuxièmement, bénéficie de subventions pour assurer son développement.
On a l'impression que les accords internationaux en matière d'environnement s'attachent à de beaux objectifs qui ne correspondent pas du tout à la réalité du secteur de l'aviation.
Disons qu'on veut polluer moins, mais tout en continuant à se développer, ce qui aboutit à plein de contradictions. Par exemple, à partir de 2020, l'Association internationale du transport aérien, IATA, va se voir acheter des crédits carbone auprès d'autres secteurs économiques pour financer des programmes de compensation d'émissions de CO2 en participant notamment à des projets de reforestation. Ce système est appelé CORSIA et il devrait s'élever à 40 milliards de dollars entre 2020 et 2035, selon l'IATA. Mais outre le fait que le principe de compensation reste très, très controversé dans les milieux scientifiques et dans les milieux écologiques, il ne sert obligatoire qu'à partir de 2027.
D'accord. Alors 2027, et qu'est-ce qui se passe d'ici là ?
On ne peut pas nier qu'il y a un souci écologique grandissant. Le directeur général de IATA, Alexandre Juniac, a annoncé le lancement prochain d'une campagne de communication pour expliquer les mesures que prennent les compagnies en matière d'efficacité énergétique afin d'éviter les fake news. Il veut prôner la technologie au service de l'écologie. Il faudra voir quand même s'il ne s'agit pas que de com et de business ou s'il s'agit vraiment d'écologie. D'autre part, dans les contradictions, l'Angleterre déclare l'urgence climatique, mais relance l'extension d'un aéroport. La France veut améliorer sa productivité et veut 40 millions de passagers supplémentaires sur Roissy. Mais plus de passagers, c'est tôt ou tard plus d'avions et plus d'émissions de gaz à effet de serre, alors qu'il faut non seulement cesser de croître, mais diminuer. Ou autre point encore, il y a actuellement 150 aéroports locaux en France. La plupart ne sont même pas rentables et se maintiennent à coup de subventions de l'État et des collectivités locales. Et ces collectivités se lancent dans une véritable compétition territoriale. Par exemple, Dole et Dijon se sont tous les deux modernisés. Rappelons qu'ils sont distants de 60 km. T'imagines le gaspillage ?
On écoute maintenant Stéphane Kerkhove, qui est délégué général de l'association Agir pour l'environnement, qui vient de lancer le 2 juin avec le réseau Action Climat une pétition concernant l'aviation et les privilèges dont elle bénéficie aujourd'hui.
Alors, bonjour, donc Stéphane Kerkhove. L'association Agir pour l'environnement a été créée il y a une vingtaine d'années. Elle a vocation à faire des campagnes de mobilisation citoyenne, c'est-à-dire mobiliser les citoyens pour l'environnement avec la vocation de faire pression sur les décideurs politiques et les responsables économiques. On a lancé cette campagne avec le réseau Action Climat, notamment pour profiter du passage de la loi mobilité pour essayer d'influer sur les débats parlementaires et essayer de faire payer le vrai coût écologique et fiscal de l'aviation, qui est un mode de transport extrêmement polluant, mais qui, paradoxalement, est largement subventionné tout à la fois par les collectivités locales et au travers d'exemptions fiscales sur les billets d'avion ou sur la détaxe sur le kérosène, ce qui a pu s'expliquer il y a quelques décennies quand il n'y avait pas encore la contrainte climatique, mais qui devient juste obsolète et la marque d'une certaine histoire liée au déni climatique et qui, pour le coup, doit connaître aujourd'hui des ajustements au travers d'une fiscalité écologique et plus juste et plus équitable. L'aviation a longtemps été le vecteur d'une certaine idée du progrès, de liberté, de déplacement. Si ce n'est qu'aujourd'hui, on voit bien que la banalisation du transport aérien, y compris pour des vols relativement courts de quelques centaines de kilomètres, a un impact significatif sur le dérèglement climatique. Et ce qu'on a considéré un temps comme du low cost était surtout un prix extrêmement cher payé à l'environnement et qui se fait au détriment du climat aujourd'hui. Il y a quelques chiffres, hein, le trafic aérien a augmenté, a plus que doublé ces 20 dernières années et d'après certains rapports, devrait tripler d'ici 2050. Donc il y a un vrai enjeu à réglementer le transport aérien pour que ça ne reste qu'une exception, une option parmi tant d'autres, mais pas un mode de déplacement classique pour relier des villes distantes de quelques centaines de kilomètres comme Paris-Lyon, Paris-Marseille ou Paris-Nantes.
Concernant la loi mobilité qui est examinée cette semaine, est-ce que le projet de loi tel qu'il est aujourd'hui vous satisfait au sujet de l'aviation ?
Non. Le projet de loi mobilité est, comme à l'accoutumée, une belle illustration de la duplicité des responsables politiques qui n'ont pas de mots assez forts pour vanter les mérites de leur politique climatique. Alors généralement, ça se fait que au travers de discours. Quand on arrive dans le concret avec des lois, une fiscalité adaptée et des interdictions et même un soutien aux modes de transport alternatif moins émetteurs comme le train par exemple, eh ben on voit que les parlementaires ont beaucoup plus de mal à passer à l'action. Nous, on le regrette et on incite évidemment les parlementaires à ajuster la fiscalité pour que, une fois encore, le train soit moins cher que l'avion et que l'avion redevienne une exception sachant qu'aujourd'hui, la majeure partie des vols intérieurs sont utilisés par les 80% des, enfin 80% des vols intérieurs sont utilisés par les catégories socioprofessionnelles les plus aisées. Donc on voit que c'est réservé à une minorité, mais elle est largement subventionnée par l'ensemble des citoyens.
Il y a des amendements hein, qui sont déjà annoncés. Je pense notamment à celui qui est porté par François Ruffin et d'autres députés et qui propose notamment de supprimer les lignes qui peuvent être effectuées par le train en moins de 5 ou 4 heures, je crois.
Il y a environ 70 lignes aujourd'hui qui sont clairement déficitaires et qui sont largement subventionnées par la collectivité. Certains aéroports subventionnent chaque passager à hauteur de 100 à 150 euros, donc c'est pas négligeable, alors qu'il y a des alternatives qui existent et qui globalement, de porte à porte, de centre-ville à centre-ville, sont parfois plus longs en transport aérien, plus coûteux pour le climat, mais moins cher parce que bénéficiant d'exemptions fiscales et de soutien, subventions d'équilibre des collectivités locales. Donc pour nous, c'est maintenant un non-sens absolu du point de vue climatique de maintenir ces lignes-là. Donc on ne peut que soutenir les amendements proposés par les députés Ruffin et Delphine Batho notamment. Et évidemment, l'enjeu, c'est tout à la fois de limiter ces déplacements en avion qui, une fois encore, sont réservés à une classe économique relativement aisée, mais surtout développer enfin et soutenir massivement la mobilité du quotidien de façon à ce qu'on puisse se déplacer à moindre coût avec un bilan carbone satisfaisant. Nous, on est tenté de dire que le low cost est au transport ce que l'agriculture chimique est à l'alimentation de qualité. C'est-à-dire qu'à un moment, de génération en génération, on a banalisé des modes de production qui sont hyper polluants et qui bénéficient d'un soutien financier de l'État qui est hors de propos à l'heure de la crise climatique. Après, il ne faut pas se cacher, la crise climatique va impacter notre mobilité et, à l'évidence, les week-ends aux Bahamas ou les week-ends dans les îles vont être globalement plus compliqués. Et il va falloir revenir à la raison. C'est moins rapide, moins souvent, moins loin.
Merci Stéphane Kerkov. Donc, comme on l'a vu, les chiffres sont effarants. Mais du coup, est-ce que ça veut dire qu'on ne doit plus prendre l'avion en taux ?
Alors, si on doit dire la vérité, la réponse est oui. Il serait préférable qu'on fasse collectivement l'effort de ne plus prendre l'avion si on veut espérer ne pas dépasser le fameux 1,5 degré. Seulement, on sait bien qu'on n'est pas prêt de voir ce destin se réaliser, sauf si la société civile prend les choses en main, informe honnêtement, propose des alternatives, dénonce les contradictions et les promesses intenables. Alors oui, le sujet est épineux, même chez nous, militantes et militants, ça crée le débat parce que dès qu'on défend l'idée d'une décroissance de l'aviation, on se retrouve vite à être catégorisé de fasciste vert. Alors, pourtant, les gens ne sont pas si imperméables que ça aux actions qui permettraient de réduire leur impact en tant que voyageurs. Une enquête récente réalisée par Entreprises du Voyage, qui est un syndicat professionnel des organisateurs et agents de voyage, sur l'impact du réchauffement climatique et les habitudes de voyage en avion, nous informe que 63% des personnes sondées seraient prêtes à faire une action pour limiter l'impact de leur voyage sur l'environnement. 49% d'entre elles pourraient choisir une destination de vacances moins lointaine. 44% pourraient renoncer à l'avion pour un mode de transport moins polluant, même si le trajet était plus long. 34% seraient prêtes à compenser les émissions carbone de leur voyage. Et même 20% seraient prêtes à renoncer à leur voyage tout court.
Pourtant, il y a un chiffre qui interpelle et qu'on a déjà donné. C'est le fait que moins de 10% des êtres humains ont pris une fois l'avion dans leur vie.
Exactement, et on va pas se mentir, c'est clairement un problème occidentalo-centré. Le problème de l'aviation est une petite partie de ce qui est une vraie injustice, et comme souvent, les responsables sont quelques privilégiés qui ne se rendent pas vraiment compte que si tout le monde prenait l'avion, la planète serait dans un état encore plus catastrophique qu'elle ne l'est déjà. Et puis, il y a surtout le fait qu'aujourd'hui, l'avion est synonyme d'évasion, de voyage, de découverte, d'ouverture sur le monde, etc. Donc, outre le fait qu'il y ait une petite partie de la population humaine qui puisse jouir de ses bons plaisirs, on a aussi un problème d'imaginaire. Et puis, les publicitaires ont réussi à nous faire intégrer qu'il est cool de prendre l'avion, que c'est trop bien de pouvoir aller passer un week-end à Édimbourg pour 39 euros, que c'est trop bien de se faire une petite virée à New York avec son ou sa chérie, ou encore que c'est carrément plus sympa d'aller passer 2 semaines à Marrakech plutôt qu'à Plougastel, par exemple.
Ouais. Toi, tu as quelque chose contre Plougastel.
Non, au contraire, c'est justement ça le problème. C'est que c'est vrai que quand on pense vacances, c'est carrément plus sexy de s'imaginer dans un lointain pays étranger, ou même plus près d'ici, à Palma de Mallorca, qu'on peut rejoindre seulement en deux petites heures d'avion. Pourtant, nos îles bretonnes ne sont pas dénuées de charme, et on peut se demander s'il est vraiment pertinent de faire des milliers de kilomètres simplement pour se changer les idées. Alors, certes, il est difficile de rivaliser sur certains aspects, et c'est vrai que c'est toujours plus agréable de découvrir un autre pays, une autre culture, mais mon propos, c'est justement de dire qu'on n'a pas besoin de prendre un avion pour traverser la moitié du globe et s'en aller découvrir en mode express un lointain pays exotique. Ça n'apporte rien de fondamentalement plus utile à un être humain, même si les pubs qu'on voit sur les tramways sont très alléchantes.
Ah, donc en fait, c'est aussi un problème de publicité. Est-ce qu'il faut interdire ce genre de pub comme on interdit la promotion des cigarettes ?
Eh bien, c'est un peu radical, mais quand on y réfléchit bien, la réponse est oui. Si l'on veut être cohérent avec nos ambitions en matière de lutte contre le réchauffement climatique, c'est justement le genre de mesure à encourager. Le parallèle avec la cigarette est hyper intéressant. On ne peut pas vraiment interdire aux gens de fumer, mais du coup, on a choisi collectivement qu'il valait mieux éviter d'encourager cette pratique. Et on va même jusqu'à mettre en place des campagnes de publicité qui sont vraiment chocs. Hélas, aujourd'hui, on est submergé par dans la situation inverse. La publicité pour les voyages en avion et leurs tarifs de plus en plus abordables fleurissent un peu partout. À Nantes, par exemple, comble du paradoxe, de grandes campagnes pour de nouvelles lignes low-cost ouvertes à l'aéroport de Nantes Atlantique s'étalent sur les façades des bus et des tramways qui circulent dans la métropole. Et par ailleurs, le voyage à Nantes s'enorgueille de son partenariat, super partenariat avec la compagnie Transavia.
C'est donc dans ce contexte qu'est né un mouvement qui veut limiter la croissance du secteur.
Oui, ce mouvement s'appelle Stay Grounded pour Restons au sol. Et c'est un mouvement international qui rassemble différentes parties prenantes à travers le monde pour justement tenter d'endiguer cette consommation effrénée de voyages par avion.
Quelles sont les revendications de ce mouvement ?
Eh bien, il y en a 13 que je ne vais pas entièrement lister ici, mais je vous invite à les retrouver sur la page web. On va mettre un petit lien sur le site de JetFM. On peut tout de même citer le fait de vouloir une transition juste, qui ne doit notamment pas se faire au détriment du personnel du secteur. Il y a un appel à abolir les privilèges qui profitent à l'industrie aéronautique, une dénonciation des mécanismes de compensation qui sont jugés comme étant de fausses bonnes idées. Il y a une revendication qui concerne la fin de la publicité dont on parlait juste avant, ou encore le fait de vouloir favoriser les alternatives comme le train via les politiques publiques.
Ah oui, donc le train, c'est une alternative crédible.
Et oui, bien sûr. On n'échappera pas aux arguments qui disent que le train, c'est pas bon, que c'est le nucléaire qui pollue, tout ça, tout ça. Honnêtement, c'est pas complètement faux. Ceci étant, au jeu de qui est le plus polluant, c'est l'avion qui gagne haut la main. Selon la DGAC, un aller-retour Paris-Marseille en avion, ça émet 50 fois plus de CO2 qu'un TGV. Et encore, on ne parle que du CO2, mais il reste les vapeurs d'eau, les oxydes d'azote, le méthane, qui contribuent tous trois à l'effet de serre. Et en fait, quand on cumule tout ça, l'impact de l'avion correspond à celui d'un pays comme la Russie.
Alors, j'ai vu que l'Autriche réinvestissait massivement dans le domaine des trains de nuit. Est-ce que c'est le seul pays à le faire en Europe ?
Non, l'Autriche est devenue un peu numéro un de fait grâce à une offre volontaire et encourageante. Mais il y a aussi l'Écosse et bien évidemment l'incontournable Suède qui tente tant bien que mal de montrer l'exemple à l'Europe entière.
Et ça marche ?
Bah, plutôt bien, parce que en fait, outre Greta Thunberg, qui est la jeune gréviste qu'on ne présente plus, originaire de Suède, c'est aussi donc de Suède qu'est né le mouvement populaire qui est appelé Flixcam, pardon pour mon accent, qui désigne la honte de prendre l'avion. En français, certains commencent même à utiliser le terme avionteux, qui est un peu comparable. Et donc, du coup, le résultat en Suède, c'est que 21% d'augmentation, il y a eu 21% d'augmentation pour les réservations de trains l'hiver dernier. Et le gouvernement n'hésite plus à taxer le secteur aéronautique. Du coup, c'est en maniant d'un côté la carotte, de l'autre le bâton, que les Suédois et les Suédoises essayent de limiter leur impact sur le climat.
Et plus localement, si on évoquait la situation autour de l'aéroport de Bouguenais, depuis que les projets de transfert à Notre-Dame-des-Landes a été abandonné.
Alors, l'enquête publique sur le réaménagement de l'aéroport de Nantes-Atlantique vient juste de démarrer, officiellement cette semaine, mais des échanges ont déjà eu lieu par voie de presse depuis quelques semaines. Françoise Verchères, qui était autrefois maire de Bouguenais et fervente opposante au projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, résume la situation en évoquant l'ambiance délétère qui pourrait entourer cette enquête ouverte jusqu'au 31 juillet. D'après elle, le risque est grand de voir les riverains s'opposer les uns aux autres. On pourrait imaginer les habitants de Saint-Aignan contre les habitants de Nantes et Bouguenay sur le prolongement de la piste, les habitants qui seraient partisans d'un hypothétique transfert contre les habitants qui exigent des améliorations rapides. Et en fait, Françoise Verchères ajoute que le débat de fond de cette concertation devrait moins porter sur l'emplacement des parkings ou la qualité des nouvelles aérogares que sur le développement du trafic aérien et sur l'intermodalité. Il y a là des questions cruciales par rapport au climat, par rapport au traitement équitable des citoyens. Et elle se demande notamment pourquoi le kérosène n'est pas taxé comme l'avion, qui concerne pourtant une minorité d'usagers. Elle se demande pourquoi il est moins cher d'aller à Lyon en avion plutôt qu'en train. De quelles aides précises les compagnies à bas coût bénéficient-elles? Pourquoi les infrastructures ferroviaires existantes ne sont-elles pas mieux utilisées? Et en fait, poser ces questions et y réfléchir permettrait de penser concrètement la transition écologique dont tout le monde se gargarise désormais. Sur le papier, en tout cas. Mais aussi de répondre aux craintes des riverains de voir le trafic exploser.
Et on ne peut donc finir sans évoquer cette citation dont on vous laisse deviner l'auteur, et celui qui trouvera sur Internet recevra un billet pour un vol Paris-New York.
Wouh.
Alors,
et pas en low cost,
ben oui. Tant c'est alternative. Hein. Le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, mais celui qui a fait une fois le tour de lui-même. Et bien, bonnes vacances les auditeurs.
Et les auditrices. À bientôt.
Voilà, puis du coup, réfléchissez à deux fois pour choisir votre destination et surtout le moyen d'y aller, quoi.
Bonnes vacances.
Vive Plougastel.
Salut.
Salut.